Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Imd Khaldoun, un pionnier de l'histoire au XIVe siècle.
Je ne suis pas un esclave. Je suis un berbère nord-africain.
Les berbères sont donc libres?
Même si mon corps est prisonnier, mon esprit reste libre et ma parole aussi.
Où as-tu pris tout ce que tu oses me dire?
Dans l'histoire. J'ai formé mon jugement en étudiant l'histoire des peuples, des souverains et des empires.
Je devrais en savoir autant, puisque l'histoire, moi, je la vis.
Ce n'est pas pareil, moi je la pense.
Moi, je la fais.
Moi, je l'écris.
Tout de suite après 1400, il avait terminé son parcours d'homme d'action dans un face-à-face avec Tamerlan, l'incarnation de la force brutale. Il l'avait commencé ce parcours aventureux au temps de la Grande Peste, cherchant toujours au service de quelle puissance il aurait pu jouer un rôle à sa mesure. Il avait survécu au sombre et tumultueux 14e siècle au prix de 1000 traverses. Écrivant à la lumière de cette expérience, il se demanda pourquoi les aiguilles de l'horloge du pouvoir tournaient si vite. Comment les cités surgissaient-elles? Arrivaient-elles à épanouissement? Puis s'auto-détruisaient comme un corps vivant miné par la sénilité. Ces ouvrages, qui cherchent à constituer une histoire universelle, fondent en réalité une science de la société et de la civilisation. Les intellectuels arabes apprécient encore en Imd Khaldoun le penseur antérieur, celui qui a précédé dans la recherche l'Occident. L'Occident, après l'avoir comparé à Machiavel, à Montesquieu, à Hegel, le considère maintenant avec moins de tranquillité. La société usée et désarmée devant les forces venues des périphéries qu'il décrit, n'est-ce pas notre Europe d'aujourd'hui? La lecture d'Imd Khaldoun est plus utile que jamais, mélancolique certainement, à moins qu'elle ne soit roborative.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Amit Bozarslan, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la garde montante de l'excellente revue Esprit. Vous appartenez au nouveau comité de rédaction d'Esprit qui publie un numéro intitulé fort justement « Violence au pluriel sans fin ». Et dans ce numéro, un grand article sur Imd Khaldoun qui suit un livre que vous aviez publié aux éditions du CNRS et qui est aussi la concrétisation d'un séminaire que vous tenez avec Gabriel Martinez-Gros pour chercher quel est l'écho d'Imd Khaldoun aujourd'hui. Parce que c'est le prendre au sérieux que de penser qu'un homme pionnier du XIVe siècle comme lui peut avoir de l'écho aujourd'hui.
Tout à fait. Le pari que nous avions fait avec Gabriel Martinez-Grand, c'était qu'Imd Khaldoun, certes, était l'homme de son temps, de son espace aussi, d'une certaine culture, puisqu'il est musulman, il l'assume en tant que tel. Il a toute une tradition philosophique grecque qui habite son œuvre, même s'il ne se veut pas philosophe. Et de l'autre côté, il nous a paru aussi important de lire Imd Khaldoun aujourd'hui pour comprendre les crises qui s'écoulent le monde arabe, mais au-delà le monde musulman. Et vous venez de le mentionner, les crises qui aussi s'écoulent éventuellement les états-providence de nos sociétés démocratiques avancées.
Avancées, à tous les sens du mot. Si vous le voulez bien, on va commencer par décrire son parcours d'homme d'action, parce que ça a été un politique en acte, comme Machiavel un peu, et pas seulement un penseur. C'est à partir du Maghreb qu'il observe les choses. Sa famille vient de Séville, mais c'est le début de la Reconquista, c'est la fin de l'Andalous, et la famille s'est repliée sur Tunis, où règne, comme dans le reste du Maghreb, des dynasties un peu fragiles, qui n'ont pas la solidité de l'empire almohade de Naguère.
Voilà, les almohades ont disparu, les mérinides essayent de...
Ça, c'est à Tunis.
Voilà, de s'imposer comme... un empire, et pas uniquement en tant qu'un royaume. Cette aventure ne marche pas très bien, car il y a d'autres dynasties concurrentes qui émergent. On a d'un côté l'impression que les villes sont encore splendides, il y a une civilisation, on reviendra sur le terme de civilisation, et de l'autre côté, on a l'impression que le pouvoir pérenne devient quelque chose d'assez rare, et la question qui se pose Imd Khaldoun, après avoir vu la fin de sa propre dynastie, il descend d'une famille de lettrés, après avoir vu comment cette dynastie s'était éteinte, la question qui se pose, c'est comment les pouvoirs émergent.
Il est né en 1332 et il a à peine 20 ans quand la Grande Peste éclate, parce qu'elle touche aussi le Maghreb. Elle est aussi suivie d'une famine. On va emprunter constamment dans cette émission un téléfilm qui a été consacré à Imd Khaldoun en 1971 par André Burguière sur un scénario de Vincent Monteil. Vincent Monteil, c'est un des grands traducteurs d'Imd Khaldoun. Juste un mot... c'est un officier, Monteil, le premier traducteur en français, Libéral Doun, c'est sur commande du ministre de la guerre, un officier.
Voilà, il s'appelle Deslan. En 1852, je crois qu'effectivement le premier volume de la traduction d'Ibn Khaldoun a lieu à Alger en 1852, donc on est un peu plus de 10 ans après le début de la conquête d'Algérie. Les officiers français se demandent, l'administration française se demande comment gérer ce monde à la fois unifié et en même temps très fragmenté. Elle a découvert Ibn Khaldoun est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Un homme venant du 14e siècle semble leur apporter la réponse à leur question.
Voici une partie autobiographique de son livre sur la peste.
Au milieu du 14e siècle, la terrible peste vint attaquer la civilisation. Ce fléau détruisit de nombreux bienfaits de la civilisation. Il surprit les dynasties vieillissantes près de leur terme, affaiblit leur puissance et abrégea leur vie. Elles approchèrent de l'anéantissement et de la disparition. La civilisation décrut avec la population. Les villes et les maisons se vidèrent. Les chemins s'effacèrent. Les villas se dépeuplèrent. Les dynasties et les tribus s'affaiblirent. La face du monde vite changea. L'Orient fut, semble-t-il, aussi éprouvé que l'Occident, en raison et en proportion de sa civilisation, comme si la voix de l'univers appelait le monde à oublier et à se restreindre, et le monde répondait à son appel. Car Dieu est l'héritier de la terre et de ce qu'elle porte. Lorsqu'il se produit un bouleversement général, c'est comme si la création entière avait changé. Aussi, faut-il qu'aujourd'hui un historien dresse un tableau d'ensemble des pays et des peuples, des usages et des croyances religieuses nouvelles.
Le comédien Hamidou qui lit le texte d'Ibn Khaldoun, comédien d'origine algérienne. Alors avant que de devenir historien, il fait quand même, après l'expérience de la Grande Peste, où il perd tous ses maîtres, l'usage de la vie politique. C'est quelqu'un qui cherche un interstice, un parapluie. Alors il va à Tunis, il va à Fès, il va à Tlemcen, il va en Espagne. Il essaye de rétablir le roi de Grenade dans son royaume menacé. Et puis tout ça, c'est flottant.
Tout ça, c'est flottant. Je crois que dès 18 ans, il intègre la cour des Mérinides dès 18 ans, donc il est encore très jeune, mais en tant qu'orphelin. En tant qu'orphelin, parce que sa propre dynastie n'existe plus, et surtout, tous ses maîtres ont disparu, et donc la quête de la survie, la quête d'être utile à la cité, même si le terme n'est pas utilisé nécessairement dans le sens qu'on l'utilise, être au cœur du pouvoir pour pouvoir être utile à quelque chose, l'obsède très très tôt. Et je crois qu'effectivement cette obsession politique ne l'a pas quitté. Après, il quitte la cour des Mérinides, il intègre les autres dynasties, mais il est toujours considéré un peu comme quelqu'un de suspect. On l'accuse de trahison, et sans doute il a été aussi dans pas mal de complots, dans des tentatives de coup de révolution de palais. Donc c'est quelqu'un qui vit constamment dans l'incertitude, mais je crois que la peste, effectivement, c'est l'élément principal de cette incertitude.
Et il va quand même trouver une certaine stabilité dans le dernier tiers de sa vie au Caire, qui est la capitale du monde, et où il enseigne, suscitant l'enthousiasme des jeunes et la méfiance des conservateurs.
Le Caire, effectivement, il définit le Caire comme une ville de monde. Pour lui, la grandeur de l'islam de l'époque, qui est un islam en déclin, les territoires de l'islam sont totalement ruiné, mais pour lui, le Caire représente encore, incarne encore toute la puissance de l'islam. Mais le Caire est une ville aussi fragile. Le Caire est une ville fragile parce que la peste a sévi aussi au Caire. Il y est juge et enseignant, mais en même temps, des forces d'opposition sont aussi extrêmement multiples dans cette ville. La théorie d'Ibn Khaldoun choque énormément de lettrés, et donc, y compris au Caire, on peut dire que, bien qu'il soit, il dispose des conditions nécessaires, y compris au Caire, il est quand même fragile.
Alors, la théorie. Première question, l'énigme du pouvoir. Comment il émerge? Avec une violence originelle, qui est issue d'un groupe qui se constitue de manière solidaire et puis qui cherche à se justifier, à se construire une légitimité.
Et voilà, pour Ibn Khaldoun, la civilisation, la société, donc la cité, et le pouvoir, Mulk, sont trois composantes d'une même équation. Les trois se construisent, on y reviendra tout à l'heure peut-être, les trois se déconstruisent au cours de même processus. Pour qu'un pouvoir puisse se constituer pour Ibn Khaldoun, il faudrait deux ingrédients de base. La asabiyya. La asabiyya, c'est un terme extrêmement complexe, mais qu'on définit comme solidarité de groupe, esprit du groupe, cette force qui permet à un groupe égalitaire, mais déjà différencié. Égalitaire, ça veut dire accédant de manière analogue aux ressources, mais déjà différencié avec un chef. Donc la asabiyya est
l'énergie fondatrice.
Sans cette énergie fondatrice, qu'on ne peut trouver que dans des conditions rudimentaires, on ne peut absolument pas accéder au pouvoir.
Autorisation de nous enseigner un deuxième mot central.
Voilà, le deuxième mot central, c'est la dawa. Initialement, cela signifie appel à témoigner de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mohammed. Donc, c'est le prosélytisme islamique. Mais par extension, la dawa signifie aussi l'idéologie. Et la dawa ne peut être qu'universaliste. Donc, d'un côté, on a la asabiyya qui particularise le groupe qui est particulier. Et de l'autre côté, la dawa qui vient de l'universel.
Donc l'énergie s'habille avec des ressources matérielles symboliques pour devenir universel.
Voilà, universel et pour se faire vraiment concurrent du pouvoir.
Et c'est ainsi que naissent les villes, parce qu'il y a toute une sociologie de l'urbanité, de la citadinité, je ne sais comment dire, chez Ibn Khaldoun. Voici que les villes approchent, toujours la lecture par Hamidou, dans le film de Burguière et Monteil, du zénith.
Tant qu'une ville n'est pas complètement organisée et que sa culture sédentaire n'est pas parfaite, les gens ne pensent qu'à l'indispensable, c'est-à-dire avant tout à la nourriture, au grain. Mais le jour où la ville est une cité, quand les produits du travail sont plus que suffisants, le surplus sert à se procurer le luxe. C'est le cas de Fès, par exemple, où la demande d'articles de luxe entraîne un accroissement de la production. C'est pourquoi Fès est la plus riche. Plus une population augmente, plus il y a de travail. Les bénéfices se multiplient et la production se développe à mesure. Au début, le travail s'appliquait à satisfaire des besoins. Maintenant, il est au service du luxe et de la richesse. On doit aussi savoir qu'en cas de diminution ou de cessation du travail, là où la population décroît, Dieu fit disparaître le profit. Il y a peu de subsistance et de profit dans les petites villes, parce qu'il y a peu de travail. Au contraire, les villes où l'on travaille beaucoup présentent des conditions plus favorables et plus de luxe pour leurs habitants.
Le travail, le luxe, partout des repères de confiance dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est la société à son sommet.
Là, c'est la société à son sommet. Pour Ibn Khaldoun, effectivement, le pouvoir naît rudimentaire, mais le pouvoir ne peut exister qu'en se consolidant. Et cette consolidation signifie tout simplement une professionnalisation dans la cité. Autrement dit, il doit y avoir des catégories qui sont capables de produire des ouvrages de luxe, des produits de luxe. Et de l'autre côté, cela signifie aussi que les sujets de la cité se désarment, acceptent leur désarmement.
Et confient à des forces de sécurité et à la justice, la sauvegarde des institutions.
La sauvegarde de l'institution et la sauvegarde de la confiance au quotidien. Car pour Ibn Khaldoun, du moment où vous avez un pouvoir, vous n'avez plus besoin d'une solidarité originelle, vous n'avez plus de asabiyya, car la police est là, la justice est là, l'enseignement pour certaines catégories est là, donc vous pouvez parfaitement accepter de vous dessaisir de votre potentiel de violence au profit de la cour.
Et on peut donc aller écouter de la musique à la terrasse des cafés. Non, pardon, parce que nous sommes ici dans la société arabe du XIVe siècle, je vous le rappelle, on peut écouter de la poésie. Parmi les amis, les hôtes en Espagne, à Grenade, d'Ibn Khaldoun, il y avait Ibn al-Khatib, qui était, comme lui, un historien et un conseiller des princes. Bon, il va finir par se fâcher avec Ibn Khaldoun et il mourra égorgé très très violemment, mais là nous sommes toujours dans le moment de grâce tel que le chant de Férouz.
Oh,
dit Abou Bakr al-Arabi a écrit des choses remarquables sur l'enseignement en apportant des idées neuves. Il faudrait commencer par l'arabe et la poésie avant toute autre science, car dit-il, la poésie c'est les archives des arabes. Il faudrait donc enseigner d'abord la poésie et la philologie arabe pour lutter contre la dégradation actuelle de la langue. Ensuite, l'élève passerait à l'arithmétique, puis il se mettrait au courant que ses travaux préliminaires lui rendraient facile. Mais la routine est la plus forte. Elle préfère enseigner d'abord le Coran.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Hamid Bozarslan, nous parlons aujourd'hui d'un pionnier dans le monde arabe au XIVe siècle de la science, de la société et de la civilisation, l'historien Ibn Khaldoun. On était parvenu il y a un instant au zénith de la société. On entend déjà là la routinisation, le conservatisme qui s'installe, la routinisation qui passe pour lui, par un enseignement du Coran littéraliste qui est critiquable. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la place de la religion dans le mouvement des cycles de l'histoire tel que vous allez continuer à le dérouler dans un instant?
Pour Ibn Khaldoun, au début, pour un pouvoir émergent, la religion est d'abord élan, est une cause. C'est quelque chose qu'on mobilise pour conquérir le pouvoir, donc c'est un élément extrêmement dynamique. Mais en se construisant, le pouvoir a tout intérêt à faire oublier ses origines, à faire oublier qu'au début, il est radicalisme et violence. Il doit s'institutionnaliser. Et la religion ne fait pas une exception. Il faut institutionnaliser la religion. La religion doit cesser d'être un élan pour devenir une science. Donc, on construit des facultés de théologie. Et on procède à une sorte de spécialisation. Les maîtres qui sont formés peuvent commenter sur le Coran, d'autres qui viendront commenteront sur les commentaires de leurs maîtres, et par ce biais-là, on constitue un corpus gigantesque, mais ce corpus est inévitablement un corpus conservateur. C'est un corpus qui est mis au service du pouvoir, qui a intérêt à désarmer sa population, à briser toutes sortes de résistances qui viendraient de son côté. La religion devient un instrument de contrôle social, de contrôle de l'espace de visibilité, s'associe à une sorte d'ordre disciplinaire.
Et oui, je pose la question autrement. Si les islamistes aujourd'hui n'aiment pas Ibn Khaldoun, c'est que pour lui, il n'y a pas un plan de Dieu préexistant qu'il faudrait déchiffrer. La religion, au fond, additionne ses forces à chacun des cycles de l'histoire.
Absolument.
Celui de la construction du pouvoir que vous avez décrit, et tout à l'heure, celui de la destruction du pouvoir.
De la consolidation et de la destruction. Et Ibn Khaldoun est très clair sur ce point-là. Il dit, nous avons des vestiges des temps anciens où le monothéisme n'existait pas. Et en même temps, le pouvoir existait. Si il en est ainsi, on peut parfaitement dire que le pouvoir n'a pas besoin de messages divins pour pouvoir se créer. Certes, les croyants doivent s'efforcer à créer une cité conforme à la volonté de Dieu, mais la cité, la civilisation ou le pouvoir n'ont pas de fondement religieux, relèvent de quelque chose qui est purement terrestre.
L'utopie de l'union du politique et du religieux, dans l'histoire telle que la voit Ibn Khaldoun, elle s'est peut-être réalisée pendant les califats bien guidés, c'est-à-dire pendant très 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 peu de temps. Alors on avance dans la progression, ou plutôt la maladie progressive de la société et du pouvoir. C'est un peu comme la vie de la vie humaine qui s'autodétruit. La cité va être atteinte progressivement, on peut employer le mot, de sénilité.
Ibn Khaldoun utilise ce terme-là. Christophe Pambian a montré qu'Ibn Khaldoun, de ce point de vue-là, était aristotélicienne. Et la philosophie aristotélicienne était très largement répandue en terre d'islam. Autrement dit, voilà, les pouvoirs, les cités émergent, se consolident et déclinent inévitablement. Et l'une des raisons qu'Ibn Khaldoun donne à cela, et je crois qu'il a, il y a une différence avec ce qui l'a précédé, c'est qu'il dit que le pouvoir, hein, en se consolidant, devient le maître de l'horloge. Elle n'a plus de sens, des facteurs qui pourraient le déstabiliser. Pour lui, l'horloge est parfaitement réglée. L'horloge du pouvoir fonctionne, le contrôle sur la société fonctionne, la politique d'imposition sur la société fonctionne, la société a été assujettie, et donc a priori, il n'y a pas de risque pour que le pouvoir tombe, mais précisément un tel pouvoir qui se base désormais sur le luxe et sur une violence a priori exportée vers l'extérieur sous forme des armes mercenaires, c'est précisément à ce moment-là que les contradictions internes structurelles de pouvoir apparaissent.
Parce que c'est une économie politique aussi, Ibn Khaldoun, c'est pas la sociologie seulement de la ville et de la citadinité. Économie politique, vous parlez des ressources, le prince prend la part du lion dans la distribution des ressources, et ça va être un des chemins de la décadence.
Avec l'apparition dans une dynastie du luxe, les chefs du parti royal se trouvent humiliés, à commencer par ses propres parents. De la sorte, deux agents de destruction les menacent. Le luxe et la contrainte. Celle-ci peut aller jusqu'au meurtre, car ils voient d'un mauvais œil le roi solidement installé. De son côté, le souverain passe de la jalousie à la crainte. Il se met à les tuer ou à les humilier. Ils périssent et leur nombre diminue. Ainsi disparaît l'esprit de corps qui soutenait à travers eux le souverain. Or, l'armée s'est mise en ce temps-là à braver la dynastie affaiblie et vieillissante que son esprit de corps a déserté. La politique du roi consiste alors à tenter d'acheter les mécontents. Ce procédé lui est plus avantageux que le sabre qui ne peut plus le servir. À chacune de ces périodes successives, la dynastie ne cesse de s'écrouler davantage pour finir par menacer ruine. Elle disparaît peu à peu comme une lampe qui faute d'huile s'éteint.
Ou comme l'ombre des montagnes qui avance à la tombée du jour. La description de la décadence est toujours poétique. Ce sont les marges qui avancent.
Ce sont les marges qui avancent.
Les périphéries.
Voilà. Parce que le pouvoir doit créer de plus en plus des ressources pour le luxe et imposer sa population, par la suite passer à une politique carrément de prédation, et de l'autre côté, les guerres qu'il essaye d'exporter vers l'extérieur lui coûtent très cher. Il a désarmé sa population, mais ses mercenaires ne lui sont fidèles que tant qu'ils savent qu'ils vont gagner. Du moment où il y a des risques qui viennent des marges, des périphériques, elles n'ont pas été désarmées, ses mercenaires vont disparaître.
Et parce qu'au moment des crises graves, les mercenaires ne vont peut-être pas assurer la survie du pouvoir.
Certainement pas. Les mercenaires ne vont certainement pas mettre leur vie en risque, tout simplement parce que ce sont les fonctionnaires de la coercition et non pas des gens qui se battent pour une cause. En se consolidant, Ibn Khaldoun nous dit, le pouvoir perd la cause qui lui était nécessaire pour pouvoir assurer sa survie.
Et il va peu à peu sortir de l'histoire dans un processus qui peut être de décivilisation. Alors évidemment, on pense à faire des rapprochements tout de suite avec le Moyen-Orient. Vous allez nous en parler, Hamid Bozarslan. On peut aussi faire des rapprochements avec nous. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés occidentales où la citoyenneté active n'intéresse plus guère, où la fonction militaire a été déléguée, souvent d'ailleurs à ceux qui viennent de la périphérie, qui cherchent un moyen d'ascension. Qu'est-ce que c'est que ces sociétés qui ne sont plus capables d'armer leurs sujets pour défendre leurs idées ?
Oui, je pense que la crise qu'on voit a atteint un niveau paroxystique au Moyen-Orient, mais en même temps, il faudrait qu'on observe aussi que la cité démocratique bourgeoise, la seule cité qu'on a d'ailleurs, est également en crise par désengagement, car la population, les citoyens, ont délégué leur sécurité, la pensée même du sécuritaire, la pensée même du militaire, à une élite, laquelle élite est certes élue, mais en même temps, on a l'impression que la citoyenneté directe s'est vidée de tout son sens. On est en face des cités sans citoyenneté. Les cités européennes restent quand même extrêmement institutionnalisées, mais de l'autre côté, on sait que ces cités-là produisent également en leur sein des marges qui peuvent elle gagnait ou créait la capacité de produire de la violence. Et ce qu'aujourd'hui on observe, c'est que les marges qui se forment aujourd'hui dans les sociétés européennes et les marges qui se forment dans les sociétés moyen-orientales peuvent s'agréger.
Oui, et puis ce ne sont pas des marges tribales comme à l'époque, le XIVe siècle, d'Imraldoun. Vous faites évidemment aussi le rapprochement avec le Moyen-Orient d'aujourd'hui, dont vous étudiez sans fin les violences, Hamid Bozarslan. Vous remarquez qu'il est très facile aujourd'hui à une ville, Mossoul, Irak, 1 300 000 habitants, 86 000 défenseurs armés en principe, un demi-milliard de dollars dans les coffres, de tomber entre les mains de 2 000 personnes.
Oui, c'est ce qui s'est passé le 10 juin 2014. En Irak, Mossoul, la deuxième ville. Et là encore, on voit combien une société qui a été assommée, une société qui a été pacifiée, une société qui n'a pas été habitée par un esprit de citoyenneté et de défense de soi, qui a perdu l'idée même de la résistance, hein, s'est trouvée otage en très peu de temps des groupes qui se sont formés à la marge, dans les marges de la société. Et c'est vrai qu'autant au XIVe siècle, les marges étaient synonymes du monde bédouin tribal. Aujourd'hui, on peut dire que les forces de l'État islamique ne viennent pas nécessairement d'un monde tribal.
À la fin de sa vie, il a rencontré notre ami Imraldoun, venu des marges brutales, Tamerlan, au moment où celui-ci avait pris, non pas Mossoul, mais Alep et Damas. Il avait négocié avec Tamerlan sa liberté en lui disant « Allez, je vais te faire un livre sur le Maghreb, ça va t'exciter dans tes conquêtes et puis peut-être te retenir dans ton hostilité vis-à-vis de moi. »
« Seigneur, j'ai donné de l'illustration aux rois des peuples en faisant revivre leurs exploits dans mes ouvrages. » J'ai vu beaucoup de souverains, tous les princes arabes, les émirs, les rois berbères, les sultans de l'Égypte, de l'Effrécria, du Maghreb, de l'Espagne. J'ai parlé au roi de Castille, Pierre le Cruel. J'ai vécu dans les cours princières et sous la tente des chameliers du désert. J'ai voyagé du couchant au levant. J'ai fait le pèlerinage de la Mecque. Et maintenant, parvenu à la 70e année de mon âge, je rends grâce à Dieu de m'avoir fait vivre assez longtemps pour te rencontrer. Je pourrais dire que j'ai vu un souverain assez sage pour préférer les propos d'un humble savant au festin de ses soldats. Je pourrais dire que j'ai vu enfin un véritable empereur.
Voilà, alors il dit ça, et puis après il peut tourner kazakh. Et s'il sauve sa vie et meurt en 1406, eh bien toute sa famille, toute sa descendance mourra dans un naufrage, comme ses ascendants et ses maîtres étaient morts à l'époque de la peste. Merci à vous, Hamid Bozarslan. Je rappelle vos livres aux éditions du CNRS, dont l'un récemment consacré à Imraldoun et le numéro de la revue Esprit, à la direction de laquelle vous participez, intitulé « Violence sans fin ». L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Elinka Negulesco et Clara Garçon, à la technique Grégory Wallon et à la réalisation Jacques Sigal.